Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Nous voilà de retour sur RMC. Merci d'être là. Un bon week-end et encore en ce 22 août, de bonnes vacances à vous toutes et à vous tous, si vous avez la chance de pouvoir y être encore. Nous sommes là ensemble, vous le savez, jusqu'à 10h, avec tout à l'heure la forme et la santé, Christian Riquia, la vie numérique, Raphaël Gravely, et après le jardin, c'est la maison maintenant. Christian Pessé, bonjour. Comment ça va, Christian? On appuie sur le bouton, ça va marcher.
Vous allez voir. Ah, voilà, voilà, ça marche.
Ouais. Décidément, pendant ces vacances, mais... là, en quelques jours, vous oubliez le fonctionnement du micro, ce qui n'est pas ouais. Bon signe.
J'appuyais pas sur le bon bouton.
Ça arrive. Hein, bon. Ça arrive. Ouais. Alors, Christian, oui. Tout va bien?
Mais oui, tout va bien.
Vous êtes le roi du bricolage, de la maison sur RMC. On vous retrouve tous les samedis entre 7h et 8h avec, bien sûr, les questions en priorité. Oui. Ce sera le cas dans un instant, au 3216 ou via l'appli RMC et Direct Studio. Et tout à l'heure, on va conserver les aliments, Christian.
Oui, on va conserver les aliments parce que c'est la période des récoltes. Lors du confinement, on a beaucoup jardiné, on a beaucoup fait de potager. Et puis maintenant, évidemment, c'est la récolte et on est submergé. Donc, il y a quelques conseils à donner sur la réfrigération, sur la congélation. Et puis, on parlera aussi conserve. Assez intéressant. Le bocal en verre, le parfait. On aura le patron de cette belle entreprise.
Et ce n'est pas vous qui êtes mon potager?
Non, moi je suis le pote toujours jeune.
Le pote toujours jeune, bien évidemment. Sûr, Christian Pessé, c'était pour plaisanter. On va évoquer aussi l'isolation thermique par l'extérieur. Comment ça marche, tiens?
Oui, comment ça marche? Ça sera un point intéressant parce que c'est maintenant qu'il faut commencer à parler d'isolation. En fin de compte, c'est en été et en automne qu'on isole parce que c'est quand même plus commode et puis les entreprises ne sont pas débordées et on va voir que l'ITE, l'isolation thermique par l'extérieur, ben, c'est le top, c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on en a la possibilité, c'est-à-dire lorsque la façade s'y prête, parce que ce n'est pas toujours le cas, et puis aussi lorsqu'on y est autorisé par rapport à éventuellement un changement d'aspect, on va voir, peut-être qu'on aura une question sur le sujet.
Alors, n'hésitez pas, appelez-nous. Tout à l'heure, donc, la réfrigération, la conservation des aliments, la conserve aussi, avec notre invité qui sera là tout à l'heure. Le 3216, l'appli RMC, Direct Studio. Et puis Christian aura un petit coup de cœur, on vous en parlera en toute fin d'émission.
Oui, coup de cœur, coup de gueule, on va voir.
Voilà, tout dépend.
On va voir comment ça se passe. Non, hein, c'est les attaches normandes. Hein.
Merci d'être là, c'est parti pour ce week-end des experts à la maison. Et on attaque avec Janine qui est là. Bonjour Janine.
Bonjour Christian, merci de prendre mon appel.
Bonjour et bienvenue sur RMC.
Voilà. Alors, je pense que vous avez déjà exposé mon problème.
Oui, j'ai vu votre mail.
Voilà. Alors, donc, j'ai une maison où il y a déjà de l'aluminium. Les fenêtres ont été changées en aluminium il y a 10 ans. La porte d'entrée dont je vous ai envoyé la photo avec les deux volets de part et d'autre oui. est en aluminium. Je me suis adressée à la mairie de là où il se trouve la maison. On m'a dit, oh, bah, pas de problème. Et quand j'ai déposé parce que je suis bête et disciplinée, je demande toujours une autorisation.
Vous avez déposé la déclaration préalable de travaux?
Absolument. On m'a dit, ah, mais l'aluminium, c'est terminé, on n'en veut plus. Mmh. Bon. Alors, parce que c'est dans un périmètre dit répertorié, enfin, etc. Donc, il m'impose des volets en bois. Or, alors, je pense que je n'ai pas de recours, si vous voulez, contre l'interdiction de la mairie.
Eh bien si.
Ni de...
Eh bien si. La France entière pâtit d'abus de pouvoir des mairies, des autorités en général sur ce sujet. C'est quelque chose que j'ai traité depuis longtemps, mais les mairies continuent à faire ce genre d'abus de pouvoir, d'abus d'autorité, parce que ça a été statué. On peut vous imposer un aspect, on ne peut absolument pas vous imposer un matériau. Et régulièrement, notamment lorsqu'on parle de PVC, parce que même là, alors là, ils sont encore plus chinois, ils veulent vous embêter avec de l'aluminium, alors que le reste de votre maison est déjà avec de l'aluminium.
Oui,
mais souvent, lorsqu'il y a un bâtiment historique, effectivement, l'architecte des bâtiments de France dit « Ah, pas de PVC hein. !»
Ah ben, bah, c'est le cas.
Pas d'aluminium.
J'ai eu l'architecte des bâtiments de France, il m'a dit « Non, c'est répertorié. » Alors, et c'est pas, parce que c'est une maison qui date de 1800.
Mais ça n'a rien.
C'est dans un périmètre.
Oui, mais le périmètre, si vous voulez, il doit être, c'est-à-dire que ça ne doit pas choquer esthétiquement. Les permis de construire, notamment, parce qu'on pourrait même, avec des volets, on pourrait même vous imposer, si vous changez de couleur, par exemple, à la rigueur, à l'extrême, on pourrait même vous imposer un permis de construire. Alors, ça a été statué depuis longtemps, hein, puisque j'avais eu votre mail, donc je suis j'ai ressorti mes fiches. Le journal officiel du Sénat du 8 novembre 1984.
8 novembre 1984,
page 1799.
1799. Voilà. Vous pourrez m'envoyer toutes les...
Oui, je vous enverrai ça. Statué, à l'époque, on parlait pas de PLU, on parlait de poste, de plan d'occupation des sols. Oui, et il est clairement écrit que les postes ne sauraient imposer des règles telles qu'une marque de matériaux ou la nature d'un matériau, de caractéristiques chimiques, etc. Il est clairement indiqué que ni les postes ni les permis de construire ne sont autorisés à imposer la nature du matériau ou sa composition, mais uniquement son aspect extérieur. Donc c'est le cas. Alors qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez faire un recours amiable auprès de la mairie. Hein, recours amiable. Et puis vous allez faire un recours auprès du préfet. Et puis, à la limite, vous demanderez au tribunal de grande instance de statuer et d'envoyer la mairie se faire. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Hein,
se faire pouet-pouet. Voilà.
D'accord. Je suis sûr que ça va intéresser beaucoup de gens.
Ah ben oui, parce que là, je suis complètement bloquée. Parce que bon, j'ai joué la carte, parce que j'aurais très bien pu changer les volets sans rien demander.
Ben, bien sûr.
Et là, j'ai joué la carte de l'honnêteté, alors que j'ai toujours déclaré tout ce que j'ai fait. Et là, alors, le problème, c'est que le prix des volets en aluminium, c'est la moitié du prix des volets en bois.
Enfin, c'est la moitié, c'est une de plus. Ça coûte plus cher. Eh
ben, les volets en bois, c'est deux fois plus cher.
Ah, c'est les volets en bois que vous avez deux fois plus cher.
Oui, c'est vrai
que l'aluminium a beaucoup baissé. Mm-hmm. Hein, et je sais pas à quoi ça tient, mais c'est peut-être parce que...
Alors là, j'avais pris une marque allemande. Bon, je vais pas faire de la publicité sur votre chaîne.
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous sommes la liberté même.
C'est la marque Eret, c'est une marque allemande et qui me présentait des qualités répondant à ce que je recherchais.
Alors, je vais compléter même mon propos parce que j'ai le texte sous les yeux. Le règlement de poste ne peut obliger qu'à un résultat fondé sur des caractéristiques esthétiques telles que l'aspect extérieur. D'une façon générale, il convient d'observer qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne permet d'obliger à l'emploi de matériaux d'une certaine nature. C'est parfaitement clair. Je crois même que c'était une question au gouvernement à l'époque. Il y en a eu. Non, ça doit être. Oui, ça doit être le résultat d'une question au gouvernement. Enfin, peu importe. Mais le texte, il est là. Je vous le mettrai sur le site internet et je vous l'enverrai.
C'est très gentil, mais alors si jamais ça bloque, parce qu'il faut quand même, si la mairie veut pas entendre raison, parce que là moi j'avais vu
recours auprès du préfet.
Oui, mais alors recours.
Vous voulez vous voler en alu ou vous voulez pas. Alors remuez-vous. C'est à vous
on
de vous remettre.
Bien, oui.
C'est aux citoyens de faire valoir ses droits. Contre l'administration. Voilà.
Bon, écoutez, voilà, merci. Janine. Alors, si jamais, merci. Oh, écoutez, c'est très précieux. J'attends vos textes. Mais alors, si jamais parce que ça va me faire des frais d'aller au tribunal.
Non, c'est gratuit.
Si jamais.
Dans la grande instance, c'est pas la peine d'aller au tribunal. Pour le moment, vous faites un recours d'abord en lettre recommandée auprès de la mairie. Ensuite, vous saisirez le préfet. Et seulement, in fine, vous irez au tribunal de grande instance. Et là, effectivement, il faudra un avocat.
Bon, d'accord. Alors, si jamais ça bloque vraiment, vous me confirmez quand même que c'est mieux de prendre de l'aluminium que du bois.
C'est très bien. Très bien,
hein, c'est bien. Bon. Et le bois, alors, si jamais je suis obligée d'aller vers le bois, qu'est-ce qu'il faut que je recherche comme qualité?
Vous prenez de beaux volets, en chêne et vous en aurez quelque chose de très bien, de très joli.
Janine, merci pour votre
solide
appel. Christian, vous pouvez, tout comme vous l'avez fait avec Janine, avec beaucoup de brio d'ailleurs,
merci.
Répondre à toutes les questions des auditeurs. Donc n'hésitez pas à nous appeler, 3216, l'appli RMC Direct Studio. On vous attend, on est là jusqu'à 8h comme chaque samedi. Il est temps maintenant de retrouver le conseil béton de Christian.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Ah oui, c'est lourd. Hein,
c'est lourd, hein, oui. C'est pour ça qu'il y a des casques de chantier.
C'est au moins,
ça sert à ça.
C'est au moins un volet en bois là qui vient de tomber.
Deux.
Le conseil donc de ce samedi, l'isolation thermique par l'extérieur. Comment ça se passe?
Alors, ça peut paraître curieux qu'on parle d'isolation thermique alors que vous êtes peut-être encore sur la plage ou à la campagne en cherchant à vous abriter du soleil. Mais c'est maintenant qu'il faut s'occuper de l'isolation parce que l'hiver va venir. Cigale et la fourmi, je vous rappelle. Et c'est évidemment principalement contre le froid là que vous allez vous isoler, mais on verra que aussi ça peut protéger de la chaleur. Mmh. Les entreprises sont plus disponibles, donc c'est le bon moment. Alors, je vous ai dit longtemps que c'était par la toiture que le froid entrait le plus volontiers. Évidemment, ça représente à peu près le tiers, 30% des pertes de calories. Mais les murs, ça vient en deuxième position, 20 à 25% de déperdition de chaleur. C'est considérable. Alors peut-être que, comme beaucoup de gens, vous avez commencé par changer vos fenêtres.
Oui.
Les fenêtres, c'est que 10 à 15%. Et changer des fenêtres, avoir des fenêtres isolantes dans une passoire thermique, c'est-à-dire dans un mur qui n'est pas isolé, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça se ressent en confort parce qu'il y a l'effet de froid que vous n'avez plus en passant devant vos fenêtres.
Mais, oui.
Mais en réalité, en termes de performance énergétique, ce n'est pas vraiment l'idéal. Alors, deux solutions pour isoler vos murs, par l'intérieur, par l'extérieur. Par l'extérieur, on parle donc d'ITE. On comprend facilement qu'en isolant par l'extérieur, eh bien, on arrête le froid avant de refroidir les murs, donc la maison elle-même. De la même façon, l'été, eh bien, on va empêcher la chaleur de pénétrer au plus tôt, c'est-à-dire à l'extérieur.
Oui.
Ça paraît notamment...
Oui, parce que quand elle est à l'intérieur, c'est plus compliqué.
Voilà, c'est pareil, une évidence, finalement. En plus... si vous faites une isolation par l'intérieur, vous allez perdre en volume et aussi en surface, parce que votre isolation par l'intérieur, elle va prendre au minimum 15 cm, 15 parfois 20 cm. Et donc, au prix du mètre carré dans certaines régions aujourd'hui, c'est pas anodin.
Mmh.
Hein, quand vous perdez, en fait, on pourrait faire facilement le calcul, quand vous perdez donc finalement 30 à 40 cm.
Oui,
autour
de la maison,
ça
fait plusieurs mètres carrés quand même.
Ça fait plusieurs mètres carrés. Seul bémol, je dirais que le fait de mettre une isolation par l'extérieur, eh bien, ça recule le positionnement des fenêtres par rapport à la façade elle-même. Donc, on y perd un peu donc en ensoleillement et lorsque l'environnement est peut-être pas très clair, si vous avez des
arbres, un peu sombre,
ça, un peu sombre,
oui, c'est sensible.
C'est assez sensible. C'est vraiment le seul point que je qualifierais de négatif. Alors, comment ça marche? Ça consiste à mettre une couche d'isolant plus ou moins épaisse en fonction de la performance du matériau. C'est donc, en général, je disais, 15 cm, parfois 20. Si les murs sont très lisses, on peut se contenter de coller l'isolant directement sur le mur, mais on a souvent recours à un système de chevillage des panneaux isolants que l'on va mettre donc sur le mur. Alors, la finition, ça peut être classiquement un enduit, c'est-à-dire la même chose que vous aviez précédemment. Ça peut être du bardage bois, du bardage PVC, ça existe aussi.
Mm-hmm.
Ça peut être aussi du bardage métallique. Il y a des solutions qui peuvent être très, très sympas, mais on peut avoir donc une finition exactement semblable à n'importe quelle maison. Alors les matériaux, c'est quoi? C'est le polystyrène expansé classiquement ou extrudé parce que c'est le moins cher et l'un des plus efficaces. Ce sont les laines minérales ou les laines végétales. Et puis la mousse résolique, qui est la dernière venue, qui est sur le marché, qui est extrêmement performante. Alors, on peut aussi utiliser des lames d'aluminium creuses à l'intérieur de laquelle il y a de la mousse de polyuréthane. Ça, c'est un système mm-hmm. dont j'ai souvent parlé, qui est aussi très, très efficace. Alors, le principal intérêt de l'ITE, c'est que ça enveloppe complètement la maison et ça réduit ce qu'on appelle les ponts thermiques, c'est-à-dire les fuites de calories qui peuvent encore se produire quand on a une isolation par l'intérieur. L'autre grand avantage, c'est qu'on refait en même temps sa façade. C'est-à-dire que si la façade a été un petit peu moche-douille, eh ben, du coup, comme on va avoir fait cette opération, on va refaire la façade. Alors, l'ITE coûte un peu plus cher que l'isolation par l'intérieur. Mais tout ça est maintenant fortement subventionné. J'en parle souvent. Il y a MaPrimeRénov. Et ça se substitue au crédit d'impôt, le CITE qu'on avait jusqu'à présent. Mais il y a aussi quantité d'aides complémentaires comme les participations de l'ANA, les collectivités locales, les collectivités territoriales, les primes énergie, vous savez, qui sont souvent distribuées par les grandes surfaces qui vendent du fioul et l'essence. Et puis il y a aussi un certain nombre de coups de pouce régulièrement. Alors pour tout ça, eh bien je répète une nouvelle fois, allez sur le site faire, non pas comme le fer, mais comme pas comme le métal, mais comme le FIRE. Vous pouvez appeler aussi un numéro, je vous le donne, on l'utilise plutôt quand on va sur le site, 0808 800 700, 0808 800 700. Je mettrai ça sur la page Facebook. Bien sûr, pour en profiter, eh bien il faut faire intervenir une entreprise RGE reconnue garant de l'environnement. Enfin, ça permet aussi, l'ITE permet aussi d'accéder au prêt à taux zéro. Dans certains cas,
l'opération peut être intéressante.
C'est très intéressant.
Bien sûr,
de toute façon,
bien sûr.
Il faut y aller en ce moment.
Merci Christian, et on revient dans un instant sur RMC. Alors on va retrouver la météo et on sera de retour et on va s'attaquer à la conservation des aliments. La réfrigération, bien sûr, la congélation, mais aussi la conserve. Tiens, peut-être avez-vous récolté plein de bonnes choses là dans votre petit potager.
Les supermarchés de haricots.
Voilà. Alors congelé, c'est bien, certes, mais on n'a pas forcément la place. Et puis la conserve, ça peut être sympa. Donc on va avoir un volet réfrigération et un volet conserve dans un instant. Voilà. Et bien sûr, toutes vos questions sur ce sujet original, qu'on n'a jamais fait, je crois, en tout cas avec la conserve.
La conserve, on n'a jamais fait.
La première fois. Le 32-16, l'appli RMC, direct studio. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
C'est le retour du week-end des experts, c'est la maison. Tout à l'heure, on retrouvera la forme de la santé avec Christian Aikia. Et puis, juste après, ce sera la vie numérique avec Raphaël Grably. Toujours Christian Pessé à mes côtés. Christian, le gros morceau de ce samedi matin, ça va être la conservation des aliments.
Oui, conservation des aliments, réfrigération, congélation et conserve. Un moment où, effectivement, les récoltes sont abondantes, d'autant qu'on a souvent plus jardiné pendant la période de confinement.
Alors, est-ce que ça a été votre cas, Christian? Est-ce que vous avez un petit peu jardiné?
Oui, alors bon, j'ai pas fait énormément de choses, mais j'ai un petit peu de jardin. Bon, alors les fraises, les fraisiers, ça c'est toujours sympa. Petit peu de salade, c'est aussi chouette, mais là il n'y a pas. Bon, on verra qu'on peut conserver de la salade au réfrigérateur. J'ai planté aussi des haricots et des petits pois, et tout ça a complètement, produit de façon formidable, parce qu'on a eu une très belle saison, notamment à l'amorçage. En n'oubliant pas qu'il y a un problème d'arrosage. Il ne faut pas oublier d'arroser. Bien sûr. Mais vous savez que j'ai aussi dans le domaine du jardinage,
tout à fait. Alors vous êtes beaucoup moins bon que Patrick Miolan,
évidemment, c'est le maître
maître absolu. Christian, juste une chose, est-ce que vous avez conservé toutes ces récoltes? Vous les avez congelées ou vous avez fait des conserves?
Alors,
vous avez tout mangé?
On est plus en congélation, mais justement on veut voir que la conserve est aussi une très bonne, solution.
Est-ce qu'il y a des innovations en termes de réfrigération?
On va en venir, nous sommes avec Célestin Meloul, bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour Célestin, bonjour, vous êtes responsable formation chez Liber. Alors la première question, vous l'avez posée, François, c'est est-ce qu'il y a des avancées et quelles sont-elles pour prolonger la fraîcheur des aliments? D'abord, on va dire peut-être en réfrigération, parce que à part souvent le tiroir en bas où on met justement les légumes et puis le reste on répartit un petit peu n'importe comment. Non, il y a des règles. Et puis vous avez donc des solutions, non?
Alors effectivement, on a des solutions. Je voudrais quand même commencer par une définition de la réfrigération. Réfrigérer des aliments, c'est conserver à court terme les aliments.
Oui.
Ensuite, on aura un deuxième sujet qui sera la congélation, où là, on conservera à long terme les produits. Donc réfrigérer, il y a trois critères pour conserver correctement les produits. Il faut de l'humidité dans le réfrigérateur. Il faut une température assez basse, puisque le froid permet de lutter contre les bactéries. Je pense qu'aujourd'hui, c'est à l'ordre du jour.
Oui.
Et puis, il faut renouveler l'air pour éviter le développement des bactéries et le développement aussi d'odeurs.
Alors, la température, c'est quoi? Température idéale?
La température idéale.
Différentes parties, j'imagine.
Voilà. Dans un réfrigérateur, vous êtes entre 4 et 5 degrés. Aujourd'hui, il y a une grande tendance sur des compartiments dédiés à différents produits. Chez Liber, on a une technologie qui s'appelle le BioFresh, qui est une technologie qui permet de mettre en dormance les produits, de ralentir fortement le développement de l'aliment.
Ah, vous faites quoi? Vous leur chantez une berceuse?
On leur chante une berceuse, on les met à 0 degré, donc on a des tiroirs, on a deux, on
voir. Ça ne gèle pas à 0 degré?
Non, ça ne gèle pas.
Une salade, ça ne va pas la...
Non, ça ne va pas geler.
Non.
Donc vous êtes à, exactement, c'est 0,7 degré.
Ah oui.
On est à 0,7.
Vous avouez que ce n'est pas tout à fait. Ah.
Je vous dis 0 degré parce qu'un jour, vous allez me sortir 7 degrés. Donc je préfère...
Qu'on se trompe de 0,7 que de 7 degrés.
Que de 7 degrés. Donc on va y amener une température donc à 0 degré et un taux d'humidité qui sera situé entre 65 et 95% d'humidité. D'accord. Les aliments sont constitués en général entre 45 et 95% d'humidité. Si vous supprimez l'humidité, vous supprimez des oligo-éléments et vous supprimez...
On assèche, en fait, c'est
vous ça. Vous asséchez l'aliment.
Alors, c'est quoi ce qui assèche? C'est un piège, ça. Hein. Donc, dans un frigo, c'est la ventilation?
Alors, vous avez sur le marché plusieurs types de froid. Oui. Le froid statique, c'est le froid de nos grands-mères, hein, les premiers réfrigérateurs qu'il y avait sur le marché. Vous avez le froid, le no-frost, le froid ventilé, qu'on retrouve, qui ont été un froid que l'on retrouve énormément dans les pays exotiques ou américains. Et c'est un froid qui... l'avantage de cette technologie, c'est qu'on a une homogénéité de la température. Par contre, on n'aura que 15% d'humidité.
D'accord. C'est un peu comme le four à chaleur tournante, quoi, sauf que c'est l'inverse.
Le four à chaleur tournante, on va avoir une répartition homogène de la température.
Ouais.
À une température très élevée.
Bien élevée, mais là, c'est la même chose pour le froid.
Voilà.
En fait. L'air est brassé.
Non, l'air n'est pas brassé, l'air est ventilé.
Ah, d'accord.
On ventile de l'air, on pousse de l'air froid sur l'aliment. Donc, on dessèche l'aliment. Alors, certains vont vous dire, écoutez, c'est simple, on va emballer l'aliment. Le problème, lorsque vous emballez un aliment, vous le mettez dans un endroit complètement confit, qu'est-ce qui va se passer? L'aliment va dégager des gaz et va s'oxyder.
Ouais.
Donc, on va diminuer fortement la durée de conservation de l'aliment.
D'accord. Alors, comment on fait pour comment vous faites pour humidifier l'atmosphère? Vous avez quoi là?
Bien, cette technologie-là qui est brevetée par ma société, par Liber, on a donc un air brassé. On va donc avoir de l'humidité qui sera créée sur la paroi du réfrigérateur. Cette humidité, on va l'envoyer dans ces fameux tiroirs. Il y a une sonde qui va mesurer la température, qui va faire en sorte que la température se rapproche de 0 degré. Et on va les diffuser dans ces trois tiroirs, trois tiroirs.
Sinon, en température, qu'est-ce qu'on va avoir? On va prendre un thermomètre. Le point noir, là, avec la flèche qui est sur le côté,
c'est pour les bactéries.
Mais il faut que ça soit apparent ou que ça disparaisse, au contraire?
Je pense qu'il faut surtout avoir un appareil qui est équipé d'un thermostat électronique, qui permet de gérer sa température au degré près et d'éviter des amplitudes thermiques qui associent la conservation des produits.
C'est quoi la température idéale d'un frigo?
La température idéale d'un frigo, c'est entre 0 et 4 degrés, 0 et 5 degrés. Nos technologies, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on est aux alentours de 0 degré dans ces fameux tiroirs.
Et sinon, c'est quoi? C'est la partie haute ou basse qui est la plus froide?
Bien, pensez à la montgolfière.
Oui.
La montgolfière, on fait monter la montgolfière par la chaleur. Donc la chaleur monte, la température la plus élevée est en haut, la plus fraîche est en bas. C'est la raison pour laquelle on a les tiroirs fruits et légumes qui se trouvent en bas.
On parle congélation?
On peut parler congélation.
Il n'y a rien d'autre d'innovant en matière de réfrigération, on va dire, normale, traditionnelle. Il n'y a rien de nouveau dans ce domaine, à part ce que vous venez d'annoncer, ce qui est pas mal. Hein.
Ce qui est pas mal. D'ailleurs, il existe une application que vous pouvez télécharger, dans laquelle on vous donne des durées de conservation. Je vous donne un exemple, puisqu'on vient de parler de salade. Hein.
Oui.
Si on vient de parler de vos salades.
Oui.
Effectivement, dans un BioFresh, vous pouvez conserver votre salade beaucoup plus longtemps que dans un réfrigérateur traditionnel. Un no-frost, 15% d'humidité. On va conserver la salade une journée, voire deux jours. Dans un air brassé, traditionnel de notre marque ou d'autres marques, on va conserver la salade en gros 5 jours. Dans un BioFresh, on va conserver la salade 13 jours.
Ah bon?
Vous avez donc la possibilité...
Mais au bout de 13 jours, elle va être fatiguée, non, quand même?
Non, elle ne sera absolument pas fatiguée. Elle aura conservé tous ses oligo-éléments et vous allez la consommer.
D'accord.
Mais tout à fait.
Ah ouais. 13 jours?
13 jours.
Et vous êtes les seuls à avoir cette techno?
Cette technologie-là, oui. Avec une technologie qui fait qu'on a une température à 0 degré, un taux d'humidité aussi élevé et un brassage d'air pour éviter le développement des bactéries.
Alors là, on parle brassage, ce n'est pas ventilation?
Non.
C'est quoi la différence?
Ventiler, vous ventilez un ventilateur, vous souffle de l'air.
Ouais.
Et un brasseur d'air brasse l'air, mélange l'air humide avec la température, ce qu'on appelle un climat.
D'accord.
Et alors, vous parlez de légumes, mais j'imagine que pour la viande aussi, on se retrouve avec des durées de conservation plus longues.
Alors, effectivement, vous avez des durées. Alors, je vous donne un exemple dans notre technologie, avec notre technologie. Vous prenez l'emmental. Dans un réfrigérateur traditionnel brassé en air brassé, la durée de conservation, en gros, c'est 10 jours. Vous êtes assis, je pense que vous devriez rester assis. Dans un BioFresh, c'est 110 jours.
Enfin, avec Christian, à mon avis, il ne reste pas 110 jours.
Mais sachez qu'au bout de 110 jours, vous avez la possibilité de consommer votre aliment.
Alors, et la viande, des choses comme ça, on gagne aussi en durée de vie sur
durez. Vous gagnez, effectivement. Il y a certains aliments, comme les avocats, etc. Là, vous ne...
Il n'y a rien à faire.
Alors, on a aussi ce qu'on appelle le BioFresh Plus, c'est une ouais. température qui permet de descendre à moins de 2 degrés et qui permet de créer une légère couche de givre sur le poisson et les crustacés. Et ça vous permet de doubler la durée de conservation de, de poisson.
C'est une science, bien agréable. La réfrigération, c'est intéressant.
Ah oui, c'est vraiment... Il y a vraiment de la haute technologie, quoi.
Bien sûr.
Maintenant, on en est là.
Alors évidemment, ça coûte plus cher. Enfin, on en parle maintenant, Christian?
Non, on en parlera après, parce qu'on va parler d'abord congélation.
Comme ça, on aura oublié.
Comme ça, on n'aura pas oublié. Mais non, mais ça coûte combien? Allez-y, ça coûte combien un réfrigérateur?
Avec votre techno.
Avec votre techno, là.
Oh, on est aux alentours, on est un peu moins de 1000 euros.
Ah oui, c'est quand même pas, non, mais c'est pas phénoménal.
Si vous connaissez la consommation d'un couple avec deux enfants en produits frais, les fruits, les légumes, la viande, le poisson, etc., en gros, c'est 5000 euros. À votre avis, on met combien par an en pourcentage à la poubelle?
Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai.
Non, c'est clair.
10 à 15% à la poubelle,
l'amorti. C'est aussi une question de santé.
En un an, vous avez amorti la différence de prix par rapport à un réfrigérateur traditionnel. Ouais.
En général, il y a un surplus de combien par rapport. J'ai aucune idée de combien coûte un frigo, en fait. Un frigo, on va dire traditionnel, coûte combien?
Tout dépendra de la technologie qui est employée et l'origine aussi du produit.
300 ou 500 euros, non, pour les basiques.
Oui, c'est vraiment le basique, oui. Vous êtes basique. Si vous voulez un réfrigérateur qui conserve correctement vos aliments, il faut mettre un petit peu plus.
D'accord.
Et la santé n'a pas de prix, je pense qu'actuellement, on s'en aperçoit.
Bien sûr. Enfin, là, en cette période, mais de tout temps, finalement. Hein, si on peut conserver nos aliments plus longtemps, c'est d'autant mieux.
On a aussi aujourd'hui la possibilité de financer. On a des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, qui permettent de financer des achats aussi importants.
Alors, la congélation.
Autrefois, on avait des étoiles. Là, maintenant, ça existe encore, ça, sur les. Il y avait des. Il y avait le freezer. Bon, maintenant, c'est.
Christian, il y a quelques mois, je vous ai expliqué la différence.
Mais vous allez
il a oublié. Confinement, je pense qu'il était.
C'est le confinement qui a été dur. Vrai. Donc, un congélateur aujourd'hui, ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à congeler ou est-ce que ça sert à conserver des aliments qui ont été surgelés? Vous nous expliquerez d'ailleurs comment ça fonctionne. Est-ce qu'on peut véritablement congeler, par exemple, donc j'ai parlé des récoltes de légumes, est-ce qu'on peut le faire soi-même ou est-ce que c'est plus ou moins risqué?
Non, absolument pas. Alors, je vais repartir sur les basiques. Une étoile, c'est moins 6 degrés. Lorsque vous avez un réfrigérateur d'une étoile, c'est moins 6 degrés.
Ouais,
deux étoiles, c'est moins 12. Trois étoiles, c'est votre fameux freezer à moins 18.
Ouais.
Donc à moins 18, on va conserver des aliments déjà congelés.
D'accord.
À moins 24, ça, hein, voilà, c'est important. Donc surtout, lorsque vous congelez des aliments, ne congelez pas à moins 18.
D'accord.
Il faut congeler au minimum à moins 24. C'est donc le congélateur, c'est un 4 étoiles.
Ah, oui.
Le congélateur, c'est 4 étoiles. Donc à moins 24 minimum, on va congeler des aliments. Et il existe sur certains produits une touche qui s'appelle Superfrost, une technologie qui s'appelle Superfrost, qui permet d'accélérer, de produire un froid beaucoup plus intense. En moyenne, chez mes confrères, ils sont entre moins 26 et moins 28. Nous, on a une technologie qui nous permet de descendre à moins 32 degrés et donc de congeler très rapidement à cœur l'aliment et d'éviter à ce qu'on ait des cristaux qui se forment dans l'aliment.
D'accord.
Donc, on aura une durée de conservation beaucoup plus importante.
Un aliment surgelé, ça veut dire quoi?
Alors, ça, c'est une technologie qui est une technologie professionnelle qu'on ne va pas retrouver dans le grand public. Alors, comment ça se passe? On va amener l'aliment à plus 63 degrés. On va amener l'aliment à plus 63 degrés. Et on va descendre en moins de 290 minutes à moins 18 degrés. Mais ça, c'est une technologie qui est utilisée par les industriels de l'alimentaire.
Oui, on ne peut pas le faire soi-même.
On ne peut pas le faire soi-même.
D'accord.
Par contre, on peut très bien conserver un produit qui a été surgelé.
Et pendant combien de temps, d'ailleurs?
Ça va dépendre de l'aliment. Si vous prenez une glace, ça sera entre 2 et 6 mois. Si vous prenez une charcuterie jambon, entre 2 et 6 mois. Du gibier, du porc, ce sera entre 6 et 10 mois, etc. etc. Tout ça, ça va dépendre. Alors, sur certains des produits, sur les nôtres, on a sur les tiroirs, sur la façade, on a des pictogrammes qui indiquent en fonction de l'aliment la durée de conservation maximum d'un produit congelé. Sachez qu'un produit qui est congelé, si vous le conservez plus longtemps que la date indiquée, ça n'est pas nocif. Par contre, il n'y aura plus de saveur, il n'y aura plus de bienfait.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme un morceau de viande qu'on va conserver au frigo qui après est impropre à la consommation.
Voilà.
Là, dans le congélateur, on pourra toujours la manger, mais elle sera pas aussi bonne, quoi.
Elle aura plus de goût, elle aura plus de bienfait, etc.
On revient dans un instant.
On va parler conserve aussi.
Voilà, on parle conservation des aliments d'une manière générale avec nos invités. N'hésitez pas si vous voulez réagir. 32-16, l'appli RMC Direct Studio. On revient juste après ceci. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Le retour de ce week-end des experts, c'est la maison. Et avec Christian Pessé et nos invités, on vous donne des conseils ce matin pour bien conserver vos aliments. Quand vous voyez comment est conservé Christian Pessé, vous vous dites que forcément il dort dans un frigo libère. C'est obligé, on est d'accord?
Elle était également... Libère l'été.
Ah, libère l'été, très bien. Ouais, bravo. Elle est très bien, Christian.
Merci.
Même votre humour a été conservé.
N'est-ce pas? Alors, nous sommes avec Célestin Velloul, donc de chez Libère. On parle de réfrigération, de congélation. Alors, moi, je vais vous poser une question. C'est qu'il y a les étiquettes énergétiques maintenant qui se sont généralisées. Alors, il y a eu du A+, il y a du A++, il y a du A, on ne sait plus combien de plus. Ça sert à quoi? Ça devient idiot, ça. Il n'y a plus que des plus avec des A. Donc, ça ne va pas disparaître, ça, non?
Et puis quand on se dit au revoir, c'est à plus.
Oui.
Mais ça, c'est pareil.
Alors, aujourd'hui, les produits sont classés entre... Le minimum qu'on peut trouver en classe énergétique, c'est à A+. Okay. Et on peut aller jusqu'à A3+, moins 20%. Alors, il ne faut
A+, pas... A3+,
moins 20%.
C'est moins 20%.
Ce sont les produits les plus performants. Alors, effectivement, le consommateur est perdu. Parce qu'il se dit, bon, j'achète un A+, c'est bien, c'est déjà un A+.
Bah oui.
Etc. Je ne vais pas mettre, je vais pas faire l'effort.
Parce qu'à l'école, quand on avait un A+, on était contents, hein.
On n'est pas du même âge. Hein. aujourd'hui, le consommateur, effectivement, il est perdu. Alors, ce qui est important, et ce qu'il faut indiquer au consommateur, c'est que, effectivement, la classe énergétique est là pour indiquer un niveau de consommation. Mais la consommation va dépendre de l'appareil, va dépendre de l'environnement de l'appareil. C'est ce qu'on appelle la classe climatique. Ouais. Vous avez donc des produits qui sont classés en classe climatique. SN, un produit qui est SN, c'est-à-dire qu'il va garder ses performances d'origine en une température entre 10 et 32 degrés. Il sera, admettons, A+, entre 10 et 32 degrés. Si la température de la pièce, et je peux vous assurer que ça arrive très souvent, parce que la température est prise derrière l'appareil, au niveau du compresseur et du condenseur qui chèvre, dépasse les 32 degrés,
là
on n'est plus en A+, et le produit deviendra énergivore. Nos produits, 90%, 99% de nos produits fonctionnent entre 10 et 43 degrés. C'est-à-dire que l'amplitude thermique dans laquelle l'appareil va conserver ses qualités d'origine se situe entre 10 et 43 degrés.
Oui, mais on le voit comment ça, sur l'étiquette?
Ben, c'est pas indiqué sur l'étiquette.
Ah ben, c'est pas indiqué.
Mais c'est pas indiqué, mais le vendeur, lorsqu'il veut répondre aux besoins du consommateur, doit l'expliquer au...
Alors, la bonne question, c'est quoi?
La bonne question, c'est quelle est la classe climatique de ce produit?
Voilà, la classe climatique. Et il y en a plusieurs, donc, de classes?
Il y a plusieurs classes climatiques. Vous avez des appareils qui fonctionnent entre 10 et 32, entre ces états. Jusqu'à la classe la plus large, c'est entre 10 et 43 degrés.
D'accord. Très bien. Et donc là, on a vraiment... Alors, si je prends un A++, 20%, là, comme vous dites...
Oui, moins 20, oui.
Ça va coûter encore plus cher.
Ça va coûter un peu plus cher.
Très bien. Mais est-ce qu'on s'y retrouve ou pas?
Bien sûr qu'on va s'y retrouver.
Parce qu'on va consommer moins d'énergie.
On va consommer moins d'énergie. L'appareil va durer plus longtemps puisque le compresseur va tourner beaucoup moins longtemps.
D'accord.
Enfin, va tourner moins dans la durée de vie de l'appareil, sera beaucoup plus.
Donc ça a du sens de prendre un A++, moins 20%.
Bien sûr, en faisant attention à la classe climatique du produit. On ne peut pas dissocier.
Oui,
classe climatique, la classe énergétique.
D'accord, très bien.
Très bien, merci Célestin Melloul pour les questions
avec
de
nous.
Congélation et réfrigération.
Restez avec nous, on va parler de conserve, alors je sais pas.
Et alors, nous avons en ligne, qui nous attend au téléphone, Jérôme Kiefer, qui est directeur de la célèbre marque de bocaux Le Parfait. Bonjour Monsieur Kiefer.
Bonjour Monsieur Pessé.
Alors, oui, je sais pas, ça existe depuis combien de temps, Le Parfait? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a toujours vu ça dans les armoires de grand-mère. Très ancien, non?
Ah oui, complètement, vous avez raison. En fait, les 90 ans de la marque cette année, donc vous voyez, ça a traversé un siècle.
Alors, est-ce que vous avez ressenti est-ce que vous ressentez en ce moment ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire un surcroît de consommation, de production, par exemple, de légumes liés à la période du confinement et un petit peu la réactivation des potagers?
Oui, complètement. En fait, le ralentissement ou changement de rythme des Français les a amenés à un retour à l'essentiel, à prendre plus conscience de leur rapport à la nature, et également de se dire qu'ils avaient besoin d'avoir une certaine autonomie alimentaire, hein, et tout ça dans le but de mieux manger, et aussi de ne plus gaspiller et de garder le surplus, parce que quand on a un potager, on peut éventuellement avoir un surplus, et on peut le conserver grâce aux bocaux, disons.
Alors, on fait comment concrètement pour conserver par exemple des haricots verts?
C'est le principe, c'est simple, hein, c'est pas, vous prenez l'exemple de légumes, donc oui, il faut des produits frais, des produits frais de saison, hein, c'est ça vraiment le principe. Il faut des bocaux, Et puis ensuite, il faut soit un stérilisateur, soit une cocotte minute, donc quelque chose qui vous permet de monter en température à peu près 100 degrés pour l'eau. Et ensuite, voilà, la conserve, bah, ça vous permet de conserver, bah, l'exemple des haricots, de conserver leur goût et leurs nutriments pour les consommer plus tard.
Voilà. Juste, est-ce qu'on peut avoir une définition de la conserve en fait ? C'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire que il faut que je stérilise en fait ce qu'il y aura à l'intérieur, je le ferme, d'accord, de manière hermétique, et après je peux le conserver. Alors même pas au frigo, c'est ça ?
Alors oui, tout à fait. Alors en fait, le principe, c'est que bon, il vous faut des bocaux propres et secs, et ensuite bon, vous choisissez vos produits, vous mettez, vous les cuisinez ou pas selon la recette. Et ensuite, vous les mettez, vous remplissez les bocaux avec ces produits-là, en essayant de faire en sorte que ce soit le plus rempli possible. Vous les fermez et ensuite, vous les immergez dans de l'eau qui ensuite doit monter à peu près 100 degrés selon les recettes et pendant une durée entre 40 minutes et 2 heures selon les recettes. Vous voyez, pour une terrine, par exemple, on va cuire, donc ça va être plus longtemps, etc.
Donc c'est quoi ? C'est comme du bain-marie, là, finalement ?
C'est un peu comme du bain-marie sur une durée assez prolongée. Si vous voulez, il y a vraiment un principe physique qui s'opère et qui va créer le vide, au sein du bocal et qui va vous permettre d'être complètement hermétique et de garder vos conserves pendant au moins un an jusqu'à même plusieurs années selon le ministère de l'Agriculture.
D'accord. Alors, on a mis un joint en caoutchouc. Hein, c'est le fameux joint qu'on a eu.
Oui, c'est vraiment hyper important. Le joint en caoutchouc, c'est vraiment une partie intégrante du process. Il faut que le joint soit neuf à chaque stérilisation.
Très bien. Et donc, après, on peut garder, vous l'avez dit, pendant un an, deux ans, trois ans, ce qu'on a mis en conserve correctement, c'est ça ?
Oui.
Et alors, quels sont les bienfaits nutritionnels ? Est-ce qu'on conserve, malgré tout, des bienfaits nutritionnels de tous ces aliments qu'on conserve ?
Oui, c'est l'avantage justement de la conservation qui date du 19e siècle. Et en fait, le principe, c'est que vous gardez les nutriments et la saveur de ce que vous allez conserver.
D'accord.
Et c'est ça le secret. Et puis voilà. Et surtout, vous conservez des aliments de saison pour les consommer hors saison. Parce que bon, si on souhaite un peu protéger la planète, on va pas manger des tomates dans l'hiver.
Oui, bien sûr. Vous pouvez nous donner un conseil pour ouvrir les bocaux, parce que c'est toujours la galère. Moi, j'avoue que j'ai souvent du mal à tirer la fameuse languette du joint pour arriver à permettre à l'air de pénétrer.
Ouais, vous avez deux systèmes assez simples. Soit vous avez un tire-rondelle, vous achetez un tire-rondelle, ou sinon vous pouvez aussi prendre une pince et tirer sur la rondelle. Ouais. Il y a aussi des rondelles, ce qu'on appelle à deux nez. Hein, donc en général, vous connaissez celles à un nez, donc avec un arrondi. Puis il y a certaines rondelles où il y a deux arrondis qui sont aussi plus simples à ouvrir.
Ouais, parce que le tire-rondelle, c'est quoi ça ?
Tire-rondelle, c'est un peu comme un décapsuleur, si vous voulez. Et en fait, vous avez un système où vous allez enrouler le bout de rondelle qui dépasse.
Ah oui, c'est
et
vrai.
Et ça vous permet d'avoir une meilleure préhension. Voilà. Et c'est quelque chose que vous trouvez dans les commerces.
D'accord. Eh bien,
parfait.
Merci, parfait, justement.
C'est le cas de le dire.
Merci à Jérôme Kiefer. Vous êtes directeur de la marque de bocaux Le Parfait.
Très bien. Après, il y a d'autres moyens de conservation. Peut-être qu'on en parlera un jour. C'est le sous-vide, qui peut-être s'apparente un peu à la conserve, mais qui est très à la mode en ce moment. On voit pas mal de pubs de systèmes, voilà, qui permettent de rendre sous-vide des aliments. Hein, Christian, je sais pas ce que vous en pensez.
Oui, mais... c'est une. Mais d'ailleurs, il y a des marques de réfrigérateurs qui ont un tiroir avec pour faire le sous-vide. Ça n'existe pas chez vous.
Ça n'existe pas chez nous. Par contre, on a une marque que l'on commercialise en four. Qui permet de notamment des fours vapeur qui permettent de cuisiner des produits sous vide. Et
d'accord.
On a aussi des tiroirs sous vide qui permettent de mettre des aliments sous vide.
D'accord. Bon, on aura l'occasion d'en reparler peut-être un jour. Le 32-16, l'appli RMC Direct Studio. Daniel est avec nous. Bonjour Daniel.
Oui, bonsoir, bonjour Christian.
Bonjour. Bienvenue Daniel. On vous écoute.
Alors, voilà, j'ai fait faire un gainage de cheminée dans une maison à la campagne. Le ramoneur, depuis X années qui venait à la maison, n'avait jamais causé de problème. Et suite à sa mise en retraite, la nouvelle entreprise qui est venue me dit « Bon, vous êtes dans l'obligation de faire faire un gainage. » Bon, je n'ai pas pris de précautions ni de renseignements, j'ai fait faire le gainage. Et malheureusement, ce gainage qui a été fait, eh bien, il y a un retour de flamme dans la chaudière quand il y a un petit peu de vent et des explosions. C'est une chaudière de chauffage central au bois.
Oui.
Donc, il y a un bouilleur avec 70 litres d'eau dedans. Alors, on avait demandé la garantie décennale, on avait fait faire une réception de travaux, j'ai demandé qu'elles interviennent pour faire faire une expertise. Bon, malheureusement, ils sont venus au mois d'août 2019.
C'est pas le moment où on chauffait plus, quoi.
Voilà. Alors, l'expert, il a dit, moi, je peux pas constater, évidemment, de désordre. Et puis, vu l'installation, bon, elle m'a pas l'air d'être aux normes des TU. Donc, la garantie décennale n'interviendra pas.
Ah, écoutez, vous avez l'entreprise. Ah oui, le gainage est intervenu quand? Enfin, le gainage, le tubage, hein, parce qu'on parle plutôt de tubage que
le
gainage.
Le tubage, oui.
Il est intervenu quand?
Alors, le tubage avait été fait en avril 2017, hein, comme une maison de campagne. Et bon, moi, j'avais pris mes précautions. J'ai bien envoyé les courriers recommandés et tout, à l'assurance, à la MAF, à l'entreprise et tout. Mais après, comme j'ai eu un cancer très grave et une opération qui a duré presque... Enfin, une opération et un suivi d'opération pendant 2 ans à Lyon, on a fait faire que l'expertise, mais ça, ils en étaient d'accord, au mois d'août 2019.
Ouais.
Et on s'était mis d'accord pour que, bon, éventuellement, on va refaire faire. Mais malheureusement, au mois de novembre, rechute, je n'ai pas pu y aller. Au mois d'avril, on devait y aller, et confinement.
Et oui, ça
donc,
fait beaucoup.
Ce qui fait que c'était reporté. Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le fait que l'assurance, l'expert me dit, si ce n'est pas un homme, nous, on n'intervient pas.
Alors, Christian.
Oui. Alors, moi, je pense qu'il faut que vous vous adressiez, là, maintenant, pour avoir un contre-avis, parce que, visiblement, votre tubage n'a peut-être pas été fait dans de bonnes conditions. Moi, je pense qu'il y a peut-être un problème de diamètre du tubage par rapport au diamètre de sortie de la chaudière, ce qui pourrait créer ce type de phénomène. Moi, je pense que vous devriez voir un spécialiste du tubage, et là, le spécialiste du tubage, c'est Poujoula. Adressez-vous chez Cheminée Poujoula, demandez à un technicien de chez eux de passer avant même d'aller sur les expertises, tout ça, parce que vous allez vous engluer dans des affaires de recours. Moi, je pense que le mieux, c'est d'avoir déjà un autre avis, et un avis tout simple, parce que en plus, peut-être que le tubage, il est de Poujoula, il a de bonnes chances de l'être, puisque 80% des tubages, ça doit être des tubages Poujoula. Comme ça, vous aurez un avis spécialisé avant de vous engager dans des poursuites.
Christian Pessé, on sera de retour la semaine prochaine, bien sûr. Ça sentira bon la rentrée, la semaine prochaine quand même. Hein. On sera toute fin août.
Oui.
Alors, vous restez avec nous. Christian, la semaine prochaine sera là, bien sûr, et nous, on poursuit ce week-end des experts avec, dans une minute, Christian Aïka qui me rejoint pour la forme et la santé, puis juste après, la vie numérique et Raphaël Grabli. Merci d'être avec nous sur RMC, et encore, ne boudons pas notre plaisir. Bonnes vacances à vous toutes et à vous tous. À tout de suite.